Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 17h30 en temps universel. Bienvenue à vous, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 12 juin 2023. Au micro, Jacques Aristide. Voici les titres que nous allons développer. Nouvelle tragédie en RD Congo. Au moins 46 civils, dont de nombreux enfants, ont été tués lors d'une attaque contre un camp de déplacés en Ituri.
Les forces armées sont en pleine enquête avec les services spécialisés ainsi que la justice militaire pour dénicher, connaître les auteurs et comment cela s'est effectué.
Fin des subventions du carburant au Nigeria, le nouveau président Bola Tinubu appelle à la patience. Adoré ou détesté, Silvio Berlusconi, l'ex-chef du gouvernement italien, est mort à l'âge de 86 ans. Les États-Unis demandent formellement à réintégrer l'UNESCO après l'avoir quitté sous Donald Trump. Et comme à l'accoutumée, les nouvelles sportives et économiques de rubriques programmées dans 10 minutes environ. Ce nouveau drame en République démocratique du Congo, pour ouvrir le journal, au moins 46 civils, dont 23 enfants, ont été tués dans l'attaque d'un camp de déplacés la nuit dernière en Ituri, région située dans le nord-est du pays. Ce sont des hommes armés, membres présumés d'une milice communautaire, qui sont soupçonnés d'être les auteurs de ce massacre. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Richard Deda, responsable de la chefferie de Bahima Badjere, dans le territoire de Djougou, désigne les miliciens Kodeko comme auteurs de cette attaque qui a eu lieu dans le camp de déplacés de Lala. Ils ont commencé à tirer des coups de feu, beaucoup de gens sont morts, brûlés dans leur maison, d'autres ont été tués à la machette, ajoute Désiré Malodra, président de la société civile locale. Le site de Lala est situé à 5 km de Boulé, où se trouve une base de casques bleus des Nations Unies. La CODECO, coopérative pour le développement du Congo, est une milice de plusieurs milliers d'hommes affirmant protéger la tribu Lindou face à une tribu rivale, les Ema. Samedi, une attaque de cette milice contre une position de l'armée a fait 7 morts parmi les civils dans le territoire voisin de Mahagi, toujours en Ituri. Par ailleurs, des sources locales ont signalé ce lundi une nouvelle attaque de village attribuée aux ADF, rebelles affiliés au groupe État islamique. Cette dernière aurait fait au moins 8 morts dimanche à Kassindi, dans la province voisine du Nord Kivu.
Au Nigeria, 2 semaines après sa prestation de serment en tant que nouveau chef de l'État, Bola Tinubu a pris la parole aujourd'hui pour tenter de rassurer la population après la suppression des subventions sur le carburant qui a fait grimper les prix. Le président nigérian demande aux habitants de faire preuve de patience et d'accepter des sacrifices en échange d'investissements futurs, notamment dans les infrastructures. D'Abuja, le compte-rendu de notre correspondant Gilbert Tamba.
Cette décision de supprimer la subvention sur le carburant, l'une des premières du nouveau président, a entraîné une hausse rapide des prix de l'essence. En échange, Bola Tinubu a promis aux Nigériens des investissements massifs dans les infrastructures de transport, l'éducation, l'électricité, les soins de santé ou d'autres services publics qui amélioreront la qualité de vie dans un pays de plus de 200 millions d'habitants. Il a insisté sur le fait que, d'après lui, des sacrifices doivent être faits pour sauver le pays de la faillite et reprendre le contrôle des ressources de l'emprise de quelques éléments antipatriotiques. La suppression de la subvention sur les carburants était attendue, mais l'annonce brutale le 29 mai dernier avait suscité la surprise dans le pays. Les conséquences de cette mesure de suppression se font sentir dans le prix à la pompe, aussi bien au Nigeria que dans les pays voisins. Gilbert Tamba, VOA Afrique, Abuja.
Dans l'actualité également, l'ONU se dit préoccupée par les détentions arbitraires massives de migrants et de demandeurs d'asile à travers la Libye, où les autorités ont arrêté des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants dans les rues, chez eux ou lors de rafles dans des soi-disant camps et caches de trafiquants. Selon un communiqué publié aujourd'hui par la MANUL, c'est la mission d'appui des Nations Unies dans ce pays, elle condamne la détention de femmes enceintes et d'enfants dans des lieux surpeuplés et insalubres et l'expulsion collective de milliers d'étrangers, même entrés légalement dans le pays. La MANUL appelle les autorités libyennes à mettre fin à ces actions et à traiter les migrants avec dignité et humanité dans le respect de leurs engagements internationaux. Elle leur demande également d'accorder aux agences de l'ONU et aux ONG un accès sans entrave aux détenus qui ont besoin d'une protection urgente.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis, sous la houlette du président Joe Biden, prévoient de réintégrer l'UNESCO à partir du mois de juillet. Le pays s'est retiré de l'agence culturelle de l'ONU en décembre 2018, sous la présidence de Donald Trump, en raison d'accusations de partialité anti-israélienne et de mauvaise gestion formulées contre cette branche onusienne. Les détails avec Alexandrine Ollonio.
Le plan proposé doit maintenant être soumis à la Conférence générale des États membres de l'UNESCO pour approbation et certains États membres ont appelé à la tenue prochaine d'une session extraordinaire pour prendre une décision. Les États-Unis fournissaient un cinquième du financement de l'agence basée à Paris, mais le prédécesseur de Donald Trump, Barack Obama, a cessé de payer en 2011 lorsque la Palestine est devenue un membre à part entière, car un tel financement est interdit par les lois américaines sur les droits de l'homme. Washington devait 542 millions de dollars au moment de son départ. Un accord conclu au Congrès américain en décembre 2022 permet à Washington de relancer les contributions financières à l'UNESCO. Les États-Unis ont d'abord rejoint l'UNESCO lors de sa fondation en 1945, mais se sont retirés pour la première fois en 1984 pour protester contre une mauvaise gestion financière présumée et un parti pris anti-américain perçu. Ils sont revenus près de 20 ans plus tard, en 2003, sous la présidence de George W. Bush, qui a alors déclaré que l'agence avait entrepris les réformes nécessaires.
Oui, et cette demande américaine est décrite comme un acte fort par Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO. Quant à la Chine, elle a d'ores et déjà indiqué qu'elle ne s'opposerait pas à ce retour. La Chine est prête à travailler avec tous les États membres, y compris les États-Unis, a déclaré aujourd'hui Yang Jin, l'ambassadeur chinois auprès de l'agence onusienne, malgré les relations houleuses entre Pékin et Washington. Le président Joe Biden, 80 ans, et qui doit subir une intervention dentaire aujourd'hui, a reporté à demain, mardi, la réunion qu'il devait avoir dans la journée avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, selon la Maison-Blanche. Le chef de l'exécutif américain, qui a annulé tous ses engagements pour la journée, a reporté de la même manière une réception avec des ambassadeurs initialement prévus ce soir, toujours d'après la Maison-Blanche. En Italie, l'ancien chef du gouvernement, Silvio Berlusconi, milliardaire, aussi célèbre pour ses manœuvres politiques que pour ses démêlés judiciaires, est mort à l'âge de 86 ans aujourd'hui. Les détails avec John Linden.
Soigné à l'hôpital San Raffaele de Milan pour une leucémie, Berlusconi y était entré vendredi. Des funérailles d'État auront lieu mercredi à la majestueuse cathédrale de Milan. Peu après l'annonce de son décès, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant l'hôpital alors que les hommages affluaient d'Italie et de l'étranger. Le président russe Vladimir Poutine a salué une personne chère et un vrai ami doté d'une énergie vitale incroyable, louant son optimisme et son sens de l'humour. Silvio Berlusconi a rejeté plusieurs fois sur Kiev la responsabilité de la guerre avec Moscou. Dans un message vidéo, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a salué son courage et sa détermination, voyant en lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie. Côté scandale, M. Berlusconi a été condamné à 7 ans de prison pour prostitution des mineurs. En 1994, il crée Forza Italia et à l'issue d'une campagne éclair relayée par son empire médiatique, il devient chef du gouvernement. Élu sénateur en 2022, il était resté jusqu'à sa mort.
L'armée russe affirme ce lundi avoir repoussé des offensives ukrainiennes dans le sud de l'Ukraine, où Kiev revendique la capture de plusieurs localités. Cependant, le ministère russe de la Défense s'est gardé de démentir ou de confirmer son repli de Blagodatne, Makarivka, Neshkouchne et Storeyeve, village que l'armée ukrainienne a dit avoir repris. Forte d'armements occidentaux et après des mois de préparation, l'Ukraine a donné le coup d'envoi au début du mois en cours à une offensive pour reconquérir les 17% de territoire occupé par la Russie. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a taclé son prédécesseur Boris Johnson aujourd'hui au sujet de nominations refusées à des proches de l'ancien occupant de Downing Street qui ont contribué à de vives tensions au sein du Parti conservateur. Boris Johnson m'a demandé de faire quelque chose que je n'étais pas prêt à faire parce que je ne pensais pas que c'était bien. Et si certains n'aiment pas cela, eh bien tant pis, a déclaré Rishi Sunak. Boris Johnson, qui a jeté l'éponge en tant que chef du gouvernement l'année dernière, a fait état vendredi dernier de son départ immédiat du Parlement alors qu'il est confronté à des sanctions pour avoir menti aux députés durant la pandémie de Covid-19. Et voilà donc pour le journal. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Michel Joseph.
L'Union européenne pourrait prêter à la Tunisie plus d'un milliard d'euros pour aider ce pays à développer son économie sinistrée, à redresser les finances de l'État et à faire face à la crise migratoire. L'offre a été annoncée dimanche par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une visite en Tunisie en compagnie des premiers ministres des Pays-Bas et de l'Italie. Une filiale de la Sonatrach, compagnie pétrolière nationale algérienne, a signé un accord avec un consortium britannico-chinois pour construire un complexe pétrochimique à Oran, a annoncé dimanche l'agence de presse algérienne. Le complexe devrait produire 550 000 tonnes de polypropylène par an, selon l'agence. Le gouvernement éthiopien a nommé le chef d'état-major de l'armée de l'air éthiopienne président du conseil d'administration de la compagnie nationale Ethiopian Airlines. Le général Yilma Merdessa remplace Girma Wake, 79 ans, vétéran de la compagnie et du secteur aérien africain.
Et maintenant, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Al Ahly s'offre sa 11e Ligue des Champions.
Oui, le club égyptien a remporté dimanche la finale de la Ligue des Champions en faisant match nul un but partout, un match retour contre le Wydad Casablanca, champion sortant une semaine après son succès 2-1 au Caire. Au cœur d'une première période à sens unique, les Marocains portés par un stade Mohamed V incandescent ont ouvert le score sur un coup franc à 12 minutes de la fin. Sur un corner, le défenseur central Mohamed Abdelmounem Dalali a poussé le ballon au fond des filets d'une tête décroisée en pleine lucarne. Déception pour l'attaquant sénégalais du WAC, Boly Sambou Junior.
Effectivement, on a raté le titre. Donc un titre à qui voilà, on voulait le donner à notre public, à notre serment public. Mais là, les dieux du foot aujourd'hui n'étaient pas avec nous. Malgré on a tout donné, on a essayé de faire notre mieux pour essayer de satisfaire notre public. On dirait Alhamdoulilah, malgré on l'a perdu. Mais Dieu merci, on va aller redoubler davantage pour essayer de terminer la saison en beauté, Inch'Allah, et essayer de sauver la saison avec les trophées qui restent.
Boly Sambou Junior, attaquant sénégalais du Wydad Casablanca. Al Ahly, qui détient désormais le record de 11 victoires en Ligue des Champions, représentera une fois de plus le continent africain au Mondial des clubs.
Les réactions dans le monde du sport se multiplient après la mort de Silvio Berlusconi.
Dans un communiqué, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rendu hommage à l'ancien patron de l'AC Milan, parlant d'un visionnaire qui, en matière de football, avait tout prévu bien avant les autres. L'AC Milan, dirigé pendant plus de 30 ans, de 1986 à 2017 par Silvio Berlusconi, salue la mémoire de son inoubliable ancien patron, pleuré également par l'AC Monza, club qu'il détenait depuis 2018, et tout le football italien. « Merci, président », a ajouté le club qui, sous le règne du Cavaliere, a raflé 29 trophées, dont 5 Ligues des Champions et 8 titres de champion d'Italie. Silvio Berlusconi est décédé des suites d'une leucémie à 86 ans. Sur le continent africain, depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué salue la mémoire de Berlusconi.
Avec la mort de Silvio Berlusconi, le football italien, européen et mondial perd un de ses principaux commandants des 50 dernières années. Le nom de Berlusconi se confond avec celui des succès de l'AC Milan, la terreur des stades des années 90, qui a réussi à soulever 5 fois la coupe aux grandes oreilles avec la triplette Gullit, Van Basten, Rijkaard. Berlusconi, pourtant premier ministre, à donner plus d'importance au football qu'à la politique, avec le même bonheur pour ce personnage hors norme que le grand public a érigé en star, avec tous les excès que cela suppose. Même au soir de sa vie, Berlusconi a marqué sa préférence pour le sport roi en créant de toutes pièces une nouvelle équipe Monza qui a réussi à se hisser à la 8e place de la Serie A italienne. Rien que pour ça, ciao champion.
Merci Yacouba. Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Retour sur l'un des gros sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Une nouvelle tuerie attribuée à une milice communautaire a fait au moins 46 morts, dont de nombreux enfants, dans la nuit de dimanche à lundi dans un camp de déplacés du nord-est du pays, région où les exactions contre les civils se multiplient. Notre collègue Eddy Sango a joint à Bounia le porte-parole de l'armée congolaise en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo.
La situation est maîtrisée après une intervention des forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone où, en fait, l'armée est dans les opérations de poursuite. Exactement, il s'agit, ce qui est préliminaire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment où nous vous parlons, beaucoup de sources confirment c'est Codeco. Et les forces armées sont en pleine enquête avec les services spécialisés ainsi que la justice militaire pour dénicher, connaître les auteurs et comment cela s'est effectué, parce que c'était tard la nuit. Vous connaissez comment les assaillants posent les actes, qui sont d'ailleurs les actes terroristes, tard la nuit. Ils se sont concentrés, ils se sont plus focalisés aux enfants et aux vulnérables. Donc un mécanisme d'alerte plus rapide a manqué à ces moments-là pour alerter les forces armées.
Certaines sources comme la société civile parlent des Codeco, qui sont des combattants qui se battent pour les hindous qui ont commis cette tuerie. Comment sait-on que ce sont les Codeco qui ont perpétré cela?
Le problème de l'Ituri est comparable au problème de Nord-Kivu. Ici, il s'agit des fils et les filles du même territoire qui s'attaque à la paisible population. Donc, il y a un groupe qui est identifié comme étant le protecteur de telle tribu et l'autre de telle tribu. Alors, les représailles maintenant se font au niveau de la paisible population, soit dans des cas de déplacés, soit dans les champs, soit dans des milieux isolés. Parce que tout a commencé aussi de certaines attaques de milices Zaïre sur un sujet, de la tribu adverse. Et voilà le problème. Le problème ici, pour mettre fin à cela, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya, a démontré clairement que nous devons mettre l'ennemi en étant dans une approche globale où, d'une part, nous utilisons l'approche non militaire, d'autre part, l'approche militaire. Ainsi, il faut renforcer la justice congolaise et internationale, mais penser aussi au programme de P2DRCS, un programme qui donne la dernière chance à tous ces détenteurs illégaux d'armes qui sont dissimulés au sein de la population, dont la plupart, ce sont les membres des communautés.
Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée congolaise en Ituri.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
La montée de la violence policière en Mauritanie provoque l'indignation après les meurtres présumés de militants des droits humains. Les Américains mauritaniens et leur soutien ont manifesté ce lundi devant leur ambassade ici à Washington en vue de demander justice. Eric Manirakidza a joint l'un des organisateurs, Bakari Tandia.
Nous sommes ici à Washington DC devant l'ambassade ici. Vous devez également parler très fort parce que votre message est pour le président Grazouane qui est le responsable.
Oui, Bakari, quelles mesures concrètes espérez-vous voir prises pour mettre fin à la violence policière en Mauritanie et garantir la justice pour les militants des droits humains qui ont été tués?
C'est très simple, c'est lutter. Prendre des mesures concrètes pour mettre fin à l'impunité, parce que l'impunité encourage l'impunité. Et je vous donne un exemple. Actuellement, le général Mohamed Ould Meghed, qui est cité par les plus grandes organisations des droits de l'homme pour être comme étant tortionnaire, il vient d'être élu membre du Parlement ou de l'Assemblée nationale mauritanienne. Et en plus, le danger est qu'il est en position d'être élu président de l'Assemblée nationale. Donc c'est extrêmement grave. Ça veut dire tout simplement que c'est un pays de l'impunité. Nous sommes ici en train de démontrer et de lutter contre ça. Ce qui se passe dans le commissariat de police, c'est tout simplement une manifestation extérieure du système. Le système est pourri, le système est corrompu, le système est criminel, le système est contre les Noirs. Il faut que ça change, n'est-ce pas?
Oui!
N'est-ce pas?
Oui!
Il faut que ça change tout de suite.
Bakari, oui. Comment pensez-vous que la mobilisation internationale telle que cette manifestation puisse contribuer à faire entendre votre voix et à soutenir des efforts en faveur des droits humains en Mauritanie?
L'impact, il y en aura. Tout d'abord, nous avons une lettre qui va être servie à l'ambassade ici au nom du président de la République. La copie de la lettre va être déposée au département d'État dans les mains du secrétaire d'État Anthony Blinken. Et notre manifestation ici n'est pas une manifestation isolée. Il y a eu des manifestations à Paris, plusieurs manifestations, des manifestations en Belgique, des manifestations en Mauritanie. Et nous comptons maintenir cette pression. Nous allons contacter le Congrès. Nous avons nos relations, nous avons nos réseaux ici. Nous sommes prêts à lutter. Le changement est inévitable. Nous sommes les agents. Nous sommes les acteurs du changement. On va faire que ce changement-là se réalise.
C'était Bakari Tandia, militant anti-esclavagiste d'origine mauritanienne.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, devrait être officiellement inculpé demain mardi pour mauvaise gestion présumée de documents classifiés. Véronica Balderas Iglesias explique dans ce reportage que les débats autour de cette affaire gagnent en intensité, principalement entre les camps républicains et démocrates. Récit d'Ilidico.
Avant la comparution attendue de Donald Trump devant un tribunal de Floride mardi, les discussions publiques sur son dernier acte d'accusation se multiplient. Monsieur Trump doit répondre de 37 chefs d'accusation, parmi lesquels obstruction, complot et rétention délibérée d'informations relatives à la défense nationale. Pour le sénateur républicain Lindsey Graham, qui a participé à l'émission This Week sur ABC, ces accusations sont une tentative de délégitimation de l'ancien président.
Ce n'est pas parce que vous l'accusez d'espionnage que je vais retirer mon soutien à Donald Trump. Il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, et je suis désolé si j'ai du mal à le faire, c'est que la plupart des républicains pensent que la loi est désormais un outil politique.
Il n'y a aucune preuve que l'enquête sur les documents classifiés menée par le conseiller spécial Jack Smith ait été instrumentalisé, a déclaré le sénateur démocrate Chris Coons à la chaîne ABC.
Bien que le président Trump soit passé à l'offensive la nuit dernière, qu'il ait attaqué le ministère de la Justice, qu'il ait appelé à la suppression du financement du FBI, je reste persuadé qu'il bénéficiera de la procédure légale à laquelle il a droit. Et à la fin, un jury de citoyens américains déterminera si oui ou non il a été correctement inculpé et s'il a violé le droit pénal fédéral.
Monsieur Trump a annoncé l'inculpation sur son site internet Truth Social et déclaré, en majuscule, qu'il est innocent. Aucun autre ancien président des États-Unis n'a fait l'objet d'une inculpation fédérale. Interrogé lors de l'émission Fox News Sunday, l'ancien procureur général William Barr, qui a servi sous la présidence de Trump, a vivement critiqué la conduite de l'ancien dirigeant américain qui a déclenché l'enquête en la qualifiant, je cite, d'imprudente.
Les plans de bataille pour une attaque contre un autre pays ou les documents du ministère de la Défense sur nos capacités ne sont en aucun cas des documents personnels de Donald Trump. Je pense que le gouvernement a agi de manière responsable. Ils lui ont donné toutes les chances de rendre ses documents.
À l'heure actuelle, le soutien à Donald Trump est fort. Même parmi les républicains qui briguent l'investiture de leur parti pour la course à la présidentielle de 2024. Le candidat républicain Vivek Ramaswamy a participé à l'émission State of the Union sur CNN.
Personnellement, je ne crois pas du tout à ces vagues allégations. Donc, si elles sont vraies, je pense que c'est le reflet d'un très mauvais jugement. Je suis sceptique quant à la véracité de ces allégations, mais l'essentiel est que nous ne pouvons pas faire l'amalgame entre un mauvais jugement et une violation de la loi.
Si Donald Trump est reconnu coupable, il pourrait être condamné à une peine de prison, mais des juristes déclarent qu'aucune loi ne l'empêcherait de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle.
Le président américain Joe Biden a tenu samedi ce qu'il a décrit comme le plus grand événement jamais organisé à la Maison-Blanche pour célébrer les membres de la communauté gay, lesbienne, bisexuelle et transgenre, et ce durant ce mois consacré à la Gay Pride, comprenez la marche des fiertés, la plus importante manifestation du mouvement LGBTQ+. Les activités ont lieu cette année au moment où une panoplie de lois sont adoptées dans des États américains, mais aussi ailleurs dans le monde, qui, selon les critiques, entrave les droits des citoyens appartenant à cette communauté. Les détails avec Anita Powell de la VOA, son reportage réalisé ici à Washington et relaté par Jenny Niwa.
La fierté est le contraire de la honte, un point que le président Joe Biden a souligné lors de la célébration de cette année de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre à la Maison-Blanche.
You are loved. You are heard.
Vous êtes aimé, vous êtes entendu, vous êtes compris et vous avez votre place. Et comme je le dis clairement, y compris dans mon discours sur l'état de l'Union, votre président, toute mon administration vous soutiennent. Nous voyons qui vous êtes, créé à l'image de Dieu. Vous méritez dignité, respect et soutien.
Tous les Américains ne sont pas d'accord ou ne pensent pas que ces conversations devraient être tenues en public. Le candidat présidentiel et gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé plusieurs projets de loi concernant les droits LGBTQ+, y compris la loi connue sous l'appellation « Ne dites pas gay », que Biden a qualifiée de haineuse. DeSantis affirme qu'il protège les valeurs conservatrices.
Mais moi, en tant que président, je pousserai contre l'idéologie éveillée et contre la sexualisation des enfants.
L'Ouganda a récemment adopté la loi dite « Tuer les gays », incitant certains Ougandais à fuir pour leur sécurité. Biden a décrit la loi comme immorale et honteuse, mais cette loi a des partisans, comme ce résident.
Dieu a créé l'homme et la femme, et ce que je dis est ce que pense la majorité des Ougandais.
La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré à la VOA que cette tendance à se servir de la loi pour restreindre les droits des homosexuels rend la célébration de cette année encore plus importante.
N'oublions pas ce que nous voyons à travers le pays dans les assemblées législatives. Plus de 600 textes de loi, une législation anti-LGBTQ+, quelques centaines d'entre eux sont contre les jeunes transgenres. Nous n'avons pas vu ce type de sentiment contre cette communauté depuis des décennies.
La communauté religieuse a des points de vue partagés sur les droits des homosexuels et parfois, les membres de la même congrégation religieuse auront des points de vue opposés sur la question. Le pape François a déclaré cette année que l'homosexualité n'est pas un crime, mais que tout acte sexuel en dehors du mariage est un péché. L'Église catholique ne bénit pas les unions homosexuelles. La Maison-Blanche a déclaré le mois de juin « mois de la fierté » en 1999 et ce mois de la fierté, à travers les États-Unis, de Washington, du président Biden, jusqu'au territoire natal de DeSantis en Floride, ces Américains sont dehors et fiers.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce lundi soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.